Vous êtes sur RTL.
8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Leur vie a basculé en quelques secondes. À la une, le témoignage rare d'un couple de gagnants du loto.
Ils ne s'expriment quasiment jamais. Il aura fallu un an à notre journaliste pour entrer en contact avec eux. Vous allez les entendre. Dans ce journal également, le coup de mou des salles de sport. La crise sanitaire a fait chuter le nombre d'adhérents. Beaucoup ne sont jamais revenus. L'éducation nationale, elle cherche des enseignants. Le nombre de candidats au concours est en forte baisse. Notre enquête à suivre. Nous évoquerons également la menace du frelon oriental ravageur pour nos abeilles. Et puis, le guide rouge débarque sur la place rouge. Les experts du Michelin ont décerné leurs premières étoiles à Moscou.
Cyprien Signy et son sort de l'info.
Avec le monde merveilleux de l'alliance en politique.
Juste après le journal.
RTL Matin.
Vous les enviez souvent, mais vous ne les entendez quasiment jamais. Les grands gagnants du loto, ces Français lambda qui un jour ont eu la chance de cocher les bons numéros. On vous retrouve Arnaud Touche en studio avec nous, alors qu'un Français a remporté vendredi soir la super cagnotte de l'Euromillion, 220 millions d'euros. Vous avez rencontré, vous Arnaud, un couple de vainqueurs, Sophie et Marc. Vous avez choisi de changer leur prénom.
Et leur voix pour préserver leur anonymat. Marc s'est rendu chez son buraliste, a fait vérifier son ticket et son détaillant lui explique qu'il doit aller au centre régional de paiement car le gain est au-delà de 30 000 euros. Il s'y rend avec sa femme, Sophie.
La personne est arrivée, nous a dit « ça fait un petit moment qu'on vous cherche ». J'ai fait « comment ?»« Mais oui, parce que vous êtes un grand gagnant et on vous cherchait ». Et après, la dame est venue, nous a dit « est-ce que vous voulez savoir le montant ou je vous l'écris ?» J'ai dit « mais écrivez-le, il vaut mieux qu'on est assis ». Et donc, c'était 4 500 000 euros. On était peu perdus.
Et pour aller toucher le pactole, ils doivent se rendre à Paris au siège de la Française des Jeux. Mmh. Et pendant ce temps, il faut bien garder son ticket.
Et c'est là que...
Et on a trouvé une petite cachette, on l'a planquée au milieu des bouteilles d'apéro.
Et leur compte courant est crédité de 4,5 millions d'euros.
Quand même, on a prévenu notre banquier, qui lui est tombé à la renverse. Hein.
Évidemment, ils décident d'aider leur famille, mais de ne pas dévoiler le montant. Ils achètent 2 voitures, 1 maison. Et Sophie se souvient du jour juste après le paiement.
Et là, je suis rentré, je me suis dit, waouh, je peux tout payer, tout ce qu'il y a là-dedans, mais je peux m'acheter ce que je veux sans regarder les prix. Je vous le donne en 1000 avec quoi je suis sorti. Avec une baguette de pain et une salade verte. J'ai pas pu faire mes courses, parce que c'était trop.
Et le couple de millionnaires n'a pas arrêté de travailler, ils jouent toujours au loto. On rappelle bien sûr qu'il y a une chance sur 19 millions oui. de gagner au loto et qu'il faut bien sûr maîtriser son jeu, ses mises et bien sûr rester raisonnable.
Formidable témoignage en tout cas, merci beaucoup Arnaud Touche.
Le rêve n'a pas de prix, il est 8h03, le blues des salles de sport à présent. En 2 ans, leur fréquentation a chuté en moyenne de 40%, Dominique.
Directement victime de l'épidémie, il y a eu les longues fermetures d'abord, puis l'accès qui reste aujourd'hui soumis au pass sanitaire. Résultat, l'affluence n'a jamais été aussi faible et la reprise est lente et laborieuse. Reportage d'Alexandre de Saint-Aignan à Rueil-Malmaison, près de Paris.
1400 mètres carrés, 4 étages, que ce soit dans les escaliers ou dans les salles, ici pas de problème de distanciation sociale. Salim cherchait de la discrétion, il est servi.
Ça fait 3 jours que je viens à 18h, il n'y a pas grand monde.
Naïma, elle, est une abonnée fidèle depuis plusieurs années.
C'est plutôt agréable parce que du coup on se retrouve entre habitués, et pour l'instant ça ne m'inquiète pas.
Mais depuis son bureau, le directeur de The Loft, Philippe Leroy, surveille les entrées et le compte n'y est pas. Hein. Moins 40% de fréquentation, moins 50% de chiffre d'affaires.
Mais juillet, août, c'était mort. Plus de ça, avec l'annonce du pass sanitaire mi-juillet, ça, on a eu un effet immédiat. Au départ, la fréquentation était très très faible. On a commencé à retrouver une progression de la fréquentation à partir de fin septembre.
Le pass sanitaire qui, dans ce club, a même fini par rassurer les clients.
J'ai quand même eu quelques adhérents qui ne voulaient pas être vaccinés, qui ne voulaient pas de pass sanitaire. Mais je dirais que ça reste très minoritaire par rapport à d'autres clubs qui n'ont pas la même population.
Les abonnements repartent à la hausse, mais le patron espère que l'État va maintenir ses aides, au moins jusqu'à en début d'année prochaine.
Enquête RTL signée Alexandre de Saint-Aignan.
Décidément, les procès s'enchaînent pour Nicolas Sarkozy, même si cette fois, rappelons-le, l'ancien chef de l'État n'est cité qu'en tant que simple témoin.
La justice s'intéresse à une série d'études d'opinion commandées par l'Élysée pour plus de 6 millions d'euros sans aucun appel d'offres. Au total, entre 2007 et 2009, ce sont 264 sondages en 2 ans qui ont été réalisés à la demande de l'exécutif. Illustration, Thomas Desprez, de cette obsession présidentielle sur absolument tous les sujets.
Oui, que pense pensez-vous du mariage possible entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni? Quelle est votre opinion sur la grossesse de Rachida Dati? Dominique Strauss-Kahn a-t-il été convaincant lors de son intervention à la télé hier? Toutes ces questions, l'Élysée les a commandées à des instituts de sondage entre 2007 et 2009. Tous les sujets ou presque y passent, même les plus farfelus. Alors ce n'est pas la première fois que la présidence commande des sondages, loin de là. C'était même assez fréquent dans les années Mitterrand ou Chirac. Mais là, ce sont les thèmes des questions qui font réagir. Les thèmes, mais aussi les instituts de sondage désignés. Et c'est tout l'objet du procès qui s'ouvre aujourd'hui. La justice tente de déterminer si ces sondages ont permis d'enrichir des sociétés appartenant à d'ex-collaborateurs du président. Parmi eux, le sulfureux conseiller de l'ombre, Patrick Bruisson. Il a réalisé avec sa société plusieurs sondages pour l'Élysée. L'ancien secrétaire général du Palais, Claude Guéant, est lui aussi mis en examen. Nicolas Sarkozy, quant à lui, ne sera pas à la barre. Il bénéficie de l'immunité présidentielle. Mais au tribunal, ses oreilles risquent de siffler.
Thomas Després du service politique de RTL. 6 mois avant la fin de son mandat, Emmanuel Macron ouvre aujourd'hui les états généraux de la justice à Poitiers. Objectif parmi d'autres, redonner aux Français confiance en l'institution judiciaire alors que certains magistrats se déclarent inquiets de leur mise en cause systématique, souvent critiquée pour leur lenteur ou leur laxisme supposé. La hausse continue des prix du carburant s'invite dans la campagne alors que notre sondage l'illustrait la semaine dernière. Le pouvoir d'achat reste de loin la préoccupation majeure des Français. Invité hier du grand jury RTL Le Figaro LCI, Valérie Pécresse, candidate à l'élection interne des Républicains pour être la candidate à la présidentielle, propose, elle, d'augmenter la prise en charge des forfaits kilométriques.
Et la question du carburant, nous allons en reparler avec celui qui sera notre invité dans une dizaine de minutes, Michel-Édouard Leclerc, puisque les centres Leclerc pourra nuée, la hausse du prix du carburant supprime leur marge. Après le frelon asiatique, c'est son cousin oriental qui menace désormais nos abeilles. Le reportage est à suivre sur RTL dans un petit instant. RTL Matin. RTL 8h09, la suite du journal avec Dominique Tenza et ce frelon oriental repéré pour la première fois à Marseille il y a quelques jours.
Oui, roux avec des taches jaunes sur l'abdomen, on le distingue difficilement de son homologue asiatique ou même européen. Pas plus dangereux d'ailleurs qu'un autre frelon pour les hommes. Il est en revanche un prédateur redoutable pour les ruches de nos apiculteurs. C'est donc à Marseille que les premiers spécimens ont été capturés. Étienne Baudu.
On est au cœur des quartiers nord, sur une pente herbeuse et fleurie que les abeilles butinent encore en cette fin octobre et que longe un ruisseau aux berges touffues et inaccessibles. Ces frelons originaires des Balkans, mais qu'on trouve aussi en Afrique du Nord, sont-ils arrivés ici par bateau peut-être? Quoi qu'il en soit, il faut les éradiquer rapidement, explique l'entomologiste Gérard Philippi.
La crainte, c'est que cette espèce se développe et puis ait des impacts très forts sur la filière apicole, puisque c'est une catastrophe quand même pour les apiculteurs. Le frelon asiatique, si vous voulez, pendant des années, on n'est pas intervenu assez vite. Ça fait maintenant presque 20 ans et on sait qu'il est partout en France. Et c'est un prédateur qui est terrible pour les abeilles qui n'ont pas besoin de ça aujourd'hui. Il attrape les abeilles, il les emmène sur les seins, sur le nid, et ensuite il les décapite, il les coupe en morceaux et puis il les donne à manger aux larves.
Et face à ce prédateur, les grands moyens vont être employés.
On va mettre en place, avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, des balises qui vont être posées sur le dos des frelons, qui vont être collées dessus. Ce sont des petites balises GPS et ensuite, avec un appareil, on va essayer de les pister pour voir où est-ce qu'ils vont s'ils rejoignent le nid. Tout le challenge aujourd'hui, c'est de trouver ce nid. S'il est unique en plus, c'est encore mieux. On pourrait l'éradiquer avant qu'il puisse se disperser et créer des colonies un petit peu partout.
C'est donc une véritable course contre la montre qui s'est engagée ici à Marseille.
Un reportage signé Étienne Baudu.
L'enquête RTL ce matin sur ce désamour qui chaque année se confirme un peu plus.
Alors que les inscriptions au concours d'enseignants qui aura lieu l'an prochain s'ouvrent demain, mardi, le nombre de candidats ne cesse de diminuer depuis 10 ans. Et chaque année, eh bien, ce sont des centaines de postes non pourvus. Les raisons de cette pénurie des vocations, c'est le choix ce matin de la brigade RTL. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Le concours pour devenir prof des écoles en primaire fait donc de moins en moins recette. Vous avez des chiffres?
Oui, il y avait 37 500 candidats en 2010 et on est tombé à moins de 30 000 en 2021, une baisse de 20%, due notamment à la décision de ne plus recruter à bac plus 3 mais à bac plus 4 et même plus 5 en comptant l'année de stage. Le vivier de candidats s'est donc réduit. Un vivier essentiellement féminin, 85% des enseignants en primaire sont des enseignantes et aujourd'hui une part importante des femmes diplômées se détournent du professorat et du statut de fonctionnaire pour aller vers des métiers qui se sont féminisés, commerce, gestion, management, là où pour le même niveau de qualification, les salaires sont plus intéressants.
Combien manque-t-il de profs dans les écoles primaires aujourd'hui?
5% des postes non pourvus à la session 2021. 465 profs manquants, essentiellement dans les académies de Versailles et Créteil, où les besoins sont les plus importants et où la pénurie de candidats peut conduire à recruter parfois à moins de 8 sur 20 de moyenne au concours. Et pour combler les manques, eh bien, l'éducation nationale recrute des contractuels en CDD.
Alors Marie, une fois qu'on a fait le constat, existe-t-il des solutions?
Le ministère a commencé à revaloriser les débuts de carrière en versant une prime dite d'attractivité. Objectif à terme, ne plus avoir de profs payés moins de 2000 euros net par mois. Un travail est également engagé sur la formation des futurs enseignants et sur la reprise d'ancienneté des candidats en reconversion professionnelle.
L'enquête de la brigade RTL était signée ce matin, Marie Guerrier. Jean Castex au Vatican. Le Premier ministre sera reçu tout à l'heure en audience privée par le souverain pontife. Une visite prévue de longue date, mais bousculée par l'actualité et la crise que traverse l'Église de France après les révélations sur l'ampleur des abus sexuels. L'ambassadeur de France en Biélorussie lui a quitté le pays sur ordre du régime. Aucune raison officielle n'a été évoquée, mais selon plusieurs médias locaux, le problème est que la France n'a jamais reconnu la réélection du président Loukachenko, entachée par des soupçons de fraude massive et émaillée d'une violente répression contre l'opposition.
Nous prenons à présent la direction de Moscou, ville à laquelle le célèbre guide Michelin vient de consacrer une première édition.
Et ce sont 9 restaurants de la capitale russe qui ont eu l'honneur de recevoir leurs étoiles à la clé. D'énormes retombées économiques et touristiques, car le plus célèbre des guides gastronomiques est aujourd'hui une référence mondiale. À Moscou, l'envoyé spécial de RTL, Pierre Herbulot.
Quand il monte sur scène pour récupérer ses 2 étoiles, Arkady Novikov sait que son restaurant vient de changer de dimension. Une reconnaissance de son travail, mais pas seulement.
On sait que quand le Michelin arrive quelque part, ça fait venir du monde, ça dope le tourisme et on en a besoin. Le fait d'en parler est déjà positif, d'autant que ce n'est que le début. Ces distinctions vont permettre d'accélérer le développement de la scène culinaire russe.
Des prix qui augmentent, un établissement complet sur plusieurs mois et donc un chiffre d'affaires qui explose pour les primés et pour le reste de la destination. C'est ce qui est arrivé en Thaïlande, où le Michelin est présent depuis 5 ans, raconte Wendal Poulenek, le directeur du guide.
Les autorités publiques ont pu mesurer le fait que la venue du guide Michelin, la notoriété pour la destination et aussi la transformation que ça induit dans la clientèle a permis de générer une dépense supplémentaire par voyageur de 10%.
Résultat, le Michelin est sollicité par des grandes villes du monde entier. Encore faut-il que la qualité des restaurants soit au rendez-vous pour sortir une sélection. La Russie a dû patienter 5 ans avant d'avoir la sienne.
Comme ça.
Reportage de Pierre Herbulot. En football, l'ultime hommage des supporters marseillais à Bernard Tapie. Une banderole a été déployée hier soir au Vélodrome, alors que l'OM l'a emporté 4-1 face à Lorient dans ce qui était l'affiche de clôture de cette 10e journée de Ligue 1.
Et le journal de 8h nous a été proposé par Dominique Tenza. On se retrouve à 9h pour le point de l'actualité. Dans un instant, Monsieur Cini sera avec nous. Oui, 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 avec son regard sur les alliances politiques. Ah oh, bon, maintenant on fait un coup de météo d'abord avec Louis Baudin.
Mais si vous voulez pas.
Mais oui, je me disais, tiens, cette musique me rappelle quelque chose. C'est le problème. Et brusquement, qu'est-ce que je vois? Un Louis Baudin à ma gauche. Et un Cini un peu effondré. Alors, bah, parlez-nous du temps de cette journée, puisque oui, vous êtes là, Louis.
C'est agréable en plus. On va avoir de la douceur, du soleil quasiment partout. Alors, sauf dans le nord-ouest, c'est vrai que sur la Bretagne. Sur le Cotentin, sur une partie des Pays de la Loire, on aura un ciel plus nuageux avec même quelques gouttes de pluie, un peu de vent sur ce littoral de la Manche. Mais ailleurs, donc, une belle luminosité. Grand soleil même dans le sud-est. Les températures, il y a quelques gelées ce matin dans le nord-est. Mais cet après-midi, 18 à 20 degrés dans la moitié nord. Oui, on va de nouveau frôler les 20 degrés à Paris ou encore autour de la vallée de la Loire, 21 à 23 degrés dans le sud et même un peu plus de 25 degrés dans le sud.